Parle-nous cet après-midi, Seigneur. Telle est la prière que nous t'adressons. Nous avons besoin de t'entendre nous parler, nous interpeller, nous corriger, nous enseigner, nous instruire, mais aussi nous consoler. Ta parole est source de vie. Bénis ces moments et prends le contrôle de ces instants. Permets que ton esprit nous guide. Au nom de Jésus, te prions. Amen. Pouvons nous asseoir. Bien-aimés, cet après-midi, notre thème, c'est les témoignages et les œuvres. Les témoignages et les œuvres, deux points, deux maillons de la chaîne. Ce sont là deux éléments intimement liés. On ne peut séparer l'un de l'autre. Nous allons lire dans Jacques chapitre 2, le verset 14 à 26. Par la suite, on lira d'autres passages. Jacques, chapitre 2, versets 14 à 26. « À quoi bon, mes frères, dire qu'on a la foi si l'on n'a pas d'œuvre? La foi peut-elle sauver dans ces cas? Si un frère ou une sœur n'ont rien à se mettre et pas de quoi manger tous les jours, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix, mettez-vous au chaud » et bon appétit, sans que vous leur donniez de quoi subsister, à quoi bon? De même, la foi qui n'aurait pas d'œuvre est morte dans son isolement. Mais quelqu'un dira, tu as de la foi, moi aussi j'ai des œuvres. Prouve-moi ta foi sans les œuvres, et moi je tirerai de mes œuvres la preuve de ma foi. Tu crois que Dieu est un? Tu fais bien. Les démons crois eux aussi, et ils frissonnent. Veux-tu te rendre compte, pauvre être, que la foi est inopérante sans les œuvres? Abraham, notre père, n'est-ce pas aux œuvres qui dut sa justice pour avoir mis son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi coopérait à ses œuvres, que les œuvres ont complété la foi, et que s'est réalisé le texte qui dit « Abraham eut foi en Dieu, qui foi en Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Et il reçut le nom d'ami de Dieu. Vous constatez que l'un doit sa justice aux œuvres et pas seulement à la foi. Tel fut le cas aussi pour Rahab, la prostituée. N'est-ce pas aux œuvres qu'elle dut sa justice pour avoir accueilli les messagers et les avoir fait partir par un autre chemin? En effet, de même que sans souffle, le corps est mort, de même aussi, sans œuvre, la foi est comment? Elle est morte. Alléluia. Je voudrais commencer par une remarque. L'épître de Jacques était une épître assez particulière parce qu'il est l'une des épîtres où le nom de Jésus n'est pas beaucoup cité. Il est cité seulement deux fois. C'est un écrit qu'on appelle l'écrit de sagesse, pour une raison quelconque. Cet épître a souvent été critiqué comme mettant un accent particulier sur le salut par les œuvres. Il y en a qui sont allés jusqu'à trouver une certaine contradiction entre Paul et Jacques, disant que Paul a mis l'accent sur la justification par la foi. Et on pourrait penser que Jacques tente ici de vouloir dire que les gens peuvent être justifiés par les œuvres. La lettre de Jacques, je l'ai dit tout à l'heure, est un écrit de sagesse. Mais cette épître ici, elle a sa bonne raison de mettre l'accent sur les œuvres. Parce que l'auteur est conscient des formes d'extrémisme qui sont agissant autour de lui ou dans la communauté, où les gens insistent sur le fait que, il est dit d'ailleurs au verset 26, « De même que sans souffle le corps est mort, de même aussi sans œuvre la foi est tout aussi morte. » Il y a des gens qui ont mal interprété Paul et qui s'engagent dans une certaine forme d'extrémisme, comme pour dire que Paul n'a jamais intégré dans sa pensée, dans son message, la nécessité des œuvres. Ce qui n'est pas correct, parce que quand nous lisons Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, que vous demande de lire, il est dit ceci: c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Vous n'y êtes pour rien. Dans la version Louis II, dit, cela ne vient pas de vous, n'est-ce pas? Vous n'y êtes pour rien. C'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des œuvres, afin que nul, selon la version Louis II, ne se glorifie. Mais selon ma version, afin que nul n'en tire orgueil. Car celui qui nous a fait, là je suis au verset 10, celui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, n'est-ce pas? Que Dieu a préparé d'avance afin que nous nous y engagions. Paul, dans ce passage, montre que nous sommes sauvés par la grâce et les moyens par lesquels nous sommes sauvés, c'est la foi. La foi est ici considérée comme la main qui porte la nourriture à la bouche. Et nous ne sommes pas sauvés par les œuvres de la loi, afin que personne ne puisse se glorifier. Mais dans sa réflexion, il finit par dire, nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres. C'est-à-dire la conséquence de la foi qui nous unit à Dieu, c'est quoi? Les bonnes œuvres. Et ces œuvres-là, c'est ce que Dieu a préparé d'avance, selon la version Louis II, ces œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Donc ces extrémistes n'ont pas tort, n'ont pas raison. La préoccupation de l'auteur de l'épître de Jacques et les projets dans lesquels il s'engage ici, c'est celui de construire une communauté solide, une communauté fraternelle, où les uns et les autres, par le fait d'avoir une relation personnelle avec Dieu, ils doivent aussi avoir une relation riche et profonde avec les frères et les sœurs, pour que la communauté puisse rayonner et établir un centre d'environnement où les gens vont se rendre compte, là, il y a des croyants. Il est donc préoccupé par le fait qu'il doit y avoir une cohérence entre la foi et les actes. Ces deux-là, on ne peut pas se permettre de les séparer. Jacques insiste que la foi manquerait quelque chose d'essentiel si cette foi-là menait, arrivait à ne pas être traduite au travers des actes. Cette foi-là n'a pas de sens. Je crois que nous nous mettons d'accord. Je voudrais donc commencer par cette remarque assez fondamentale. La foi en elle-même, si elle veut être essentielle, elle veut être pertinente, cohérente, significative, la foi doit être traduite au travers des actes. Sans quoi, elle n'est pas une foi. Alors, les textes que nous venions de lire dans Jacques chapitre 2, versets 14 à 26, fait partie de la partie centrale de l'épître à Jacques, le type de Jacques. Parce que quand vous lisez le chapitre 2, le premier verset jusqu'au verset 13, il est question d'une mise en garde contre des gens qui accueillent des personnes occultes, vraiment occultes, comme nous nous retrouverons ici un dimanche. Vous accueillez des gens occultes, il y a des pauvres et des riches. Les riches viennent en retard parce qu'il est bien habillé. On dit, toi pauvre, retire-toi, mets-toi debout. Va te mettre là derrière pour laisser la place à qui? Pour laisser la place aux riches, celui qui est bien habillé et qui est en or. Il met une mise en garde par rapport à ça. Ça, c'est la première partie du chapitre, donc le verset 1 au verset 13. Alors, quand nous lisons de l'autre côté, au chapitre 3, je saute d'abord du chapitre, verset 14, verset 26. Quand nous allons de l'autre côté, au chapitre 3, le verset 1 à 13, on constate qu'il fait une mise en garde encore contre l'utilisation de la langue. Nous sommes vraiment aux deux extrêmes, le verset 1 à 13, et de l'autre extrême, les versets 1 à 13 du chapitre 3, on laisse au milieu les versets 14 et 26. Alors, les versets 1 à 13, il met une mise en garde contre l'utilisation de la langue. Il est conscient ici que la langue peut tuer, la langue peut commettre des choses difficiles à récupérer. Il considère la langue, il est dit d'ailleurs dans ce verset-là, que la langue est un petit organe, mais qu'on peut comparer à un feu, n'est-ce pas? Un tout petit feu, lorsqu'on jette un petit feu dans une forêt, il peut brûler toute une ville ou alors tout un quartier. Ce petit organe difficile à maîtriser, difficile à gérer, la langue, il faut le gérer avec beaucoup de tact, beaucoup de sagesse. Sinon, il fait beaucoup de dégâts. Alors, maintenant, quand nous en venons au verset 14 à 26, ici, il insiste sur la foi qui doit être manifestée par les œuvres. La manière d'accueillir les gens au culte, c'est aussi une œuvre. La discrimination ne peut pas glorifier le Seigneur. La manière d'utiliser sa langue de façon irresponsable, c'est aussi une sagesse. Il faut faire attention. Alors, il insiste sur le fait que la foi coopère avec les œuvres. Et les œuvres, on peut les dire, complètent la foi. Donc, notre foi est accomplie au travers des œuvres. Voilà pourquoi il faut faire attention aux actes que nous posons. Parce que les actes que nous posons parlent plus que les paroles que nous prononçons. Alléluia. Alors, le premier point, pourquoi l'insistance sur la foi et les œuvres? Pour lui, la validité de la foi qui sauve. Parce qu'il y a une foi qui ne sauve pas. Il y a une foi qui peut sauver et une foi qui ne sauve pas. Si vous prétendez avoir reçu Jésus un jour et que vous vivez une vie irresponsable tout au long de votre vie, sans tenir compte ni de Dieu, ni du prochain, cette foi-là ne vous sauvera pas, ne me sauvera pas. Alors, la validité de la foi qui sauve compte, prend en compte, tient en compte et prend en compte le frère et la sœur, avec qui nous partageons la même foi et la même espérance. Et ce qui a fait que l'Église primitive a eu beaucoup de succès, c'était ça. C'est le fait qu'ils ont compris que nous formons une famille. Il n'est pas possible qu'il y ait encore parmi nous une certaine indigence. Ceux qui avaient les champs, qu'est-ce qu'ils en faisaient? Ils les en vendaient. Et distribuaient l'argent à qui? À tous. Pour qu'il n'y ait pas de situation d'indigence pendant que les autres ont des propriétés qu'ils gardaient pour eux-mêmes. Alors ici, il dit, si tu vois un frère qui n'a pas d'habit, et toi tu lui dis, va te chauffer. Il va se chauffer avec quoi? D'abord, il n'a pas d'habit. C'est comme en hiver. Nous, on ne connaît pas l'hiver ici, mais il faut aller en Europe. En hiver, si tu n'as pas de ketch, tu n'as pas de jeans, tu n'as pas de jacket, mais tu peux mourir. Je crois qu'il parle dans un contexte où les gens ont vraiment froid et qui n'a pas même... La maison n'est même pas chauffée. Et puis tu lui dis, va te chauffer. Il n'a rien à manger et toi tu lui dis, bon appétit. Il va bon appétit par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Il veut dire que normalement, dans une communauté de frères, et c'est là le témoignage que nous sommes appelés à rendre, dans une communauté de frères et de sœurs, on doit faire le meilleur de soi pour qu'il n'y ait pas de disparité sociale. Qu'il n'y ait pas un frère parmi nous qui passe la nuit sans manger. Pendant que nous, on jette la nourriture à la brousse. Non. Si nous voulons former une communauté solide, nous devons voir dans quelle mesure résoudre ces problèmes, ces besoins fondamentaux des gens. Jean aussi le dit dans 1 Jean chapitre 3, le verset 16 à 18, il dit, c'est à ceci que désormais nous connaissons l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour qui? Pour nos frères. Si quelqu'un possède les biens de ce monde et voit son frère dans les besoins et qu'il se ferme à toute compassion, dans la version du second, on dit qu'il ferme ses entrailles et qu'il se ferme à toute compassion, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui? Mes petits enfants, n'aimons pas en parole et de langue, mais en acte et dans la vérité. Notre foi doit être traduite non en parole, mais en acte. Il n'est pas possible d'aimer Dieu, c'est toujours Jean qui le dit, qui est loin, qu'on ne voit pas, lorsqu'on n'aime pas le frère qui est à côté de soi. Nous devons donc ouvrir une chaîne de solidarité où nous sommes en mesure de constater les besoins des autres. Et c'est ça d'ailleurs le travail de la diaconie dans l'église. Ce n'est pas un travail de compter l'argent le dimanche quand on a donné l'offrande, mais de se rendre compte à quel point il y a certaines disparités dans l'église et comment résoudre ces différents problèmes. L'église doit mettre un accent particulier sur le social. Et nous, en tant que croyants, devons nous rassurer que sur mon parcours, sur mon chemin, des personnes que le Seigneur met sur mon chemin, ce n'est pas question qu'il soit de ma tribu, qu'il soit de mon rang social, à quel niveau je réponds à ces besoins-là. Parce que la foi est sans valeur si elle n'est pas accompagnée de tous ces actes de compassion, de solidarité et de miséricorde vis-à-vis des personnes qui sont en situation de souffrance. En d'autres termes, avoir la foi, c'est être en communion avec qui? Avec Dieu. Mais cette communion avec Dieu implique une autre communion, la communion avec les autres. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas les séparer. Et c'est ça ce que signifie la croix. Il y a une barre verticale et une barre horizontale. Cette barre horizontale et verticale nous unit à qui? À qui? À Dieu. Tandis que la barre horizontale nous unit au prochain. Cette relation verticale et relation horizontale sont intimes. Les deux sont intimement liés. Et le monde nous observe par rapport à ça. On ne peut pas se permettre de prétendre être en relation avec Dieu tout en laissant quelqu'un mourir à notre porte. Vous connaissez bien l'histoire du bon samaritain, n'est-ce pas? Lisons ce passage, le bon samaritain, en Luc chapitre 10, à partir du verset 29. Nous y sommes? Luc chapitre 10. Mais lui, voulant montrer sa justice, dit à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Jésus reprit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba sur des bandits qui, l'ayant dépouillé, et roué des coups s'en allèrent, les laissant à moitié mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait par ce chemin, il vit l'homme et passa à bonne distance. Un lévite de même arriva en ces lieux, il vit l'homme et passa à bonne distance. Mais un samaritain qui était en voyage arriva près de l'homme, il le vit. La parole de Dieu dit, il fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Les chargea sur sa propre monture, les conduisit à une auberge, et prit soin de lui. Le lendemain, tirant deux pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste et lui dit, « Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te le rembourserai quand je repasserai. Lequel des trois, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé sur les bandits? » Le légiste répondit, « C'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Jésus lui dit, « Va, toi aussi, fais de même. » Il a posé la question, « Qui est mon prochain ?» C'est ça la question qu'il a posée. Jésus n'a pas répondu à la question pour qu'il lui dise, « Qui est son prochain ?» Pourquoi? Il raconte une histoire. Il dit qu'un homme avait rencontré des bandits sur la route. Ils l'ont dévalisé, ils l'ont resté à demi-mort.
Le prêtre,
il allait certainement au culte, au temple.
Le prêtre est le premier à passer.
Le prêtre le voit, à Capitaine Bali, il passa à bonne distance pour qu'il reste pur. Un lévite, lui aussi arrive, lui aussi fait la même chose à bonne distance. Mais quelqu'un qu'on considérait comme païen, c'est donc un samaritain, lui arrive, il le voit et la parole de Dieu est précise. Il fit prix de pitié. Il le prend, il bande ses plaies, il verse de l'huile et va le garder dans un motel quelque part jusqu'au lendemain et puis va payer la facture, va partir. Il dira, si vous dépensez plus, je paierai. Maintenant, il pose la question à celui qui lui avait posé la question. Il ne lui pose pas la question qui est son prochain. Il a dit, lequel s'est montré son prochain. La question n'est pas de savoir qui est mon prochain, mais la question est de savoir, moi, je suis le prochain de qui? C'est ça ce que le texte veut dire. Il n'est pas question de demander qui est mon prochain, il est plutôt question de te poser la question, en fait, moi, aujourd'hui, je serai le prochain de qui? Parce que si tu te poses la question de savoir je serai le prochain de qui, tu sauras effectivement avoir pitié et montrer un témoignage de compassion. Et quand il dit, c'est celui-là, alors il lui dit, toi aussi, va et fais de même. Nous devons nous montrer les prochains de ceux qui sont en situation de souffrance. C'est le même Jacques qui dit au verset 27 du chapitre 1, la religion pure et sans tache devant Dieu, la voici. Visiter les orphelins et les veuves dans leur détresse, s'égarder du monde pour ne pas s'essuyer. Donc, il y a des personnes dont la vulnérabilité est réelle. C'est les veuves, c'est les orphelins, et nous en avons autour de nous, nous en avons dans l'Église. On ne peut pas manquer à qui on doit se montrer le prochain de l'autre. Deuxième chose maintenant, la foi est inopérante sans les œuvres. Est-ce qu'il y a des exemples? Jacques a parlé d'Abraham, il a parlé de Rahab. Comment ça s'est passé pour Abraham? Abraham est reconnu comme étant le père de la foi parce qu'il a été justifié devant Dieu par la foi. Le Seigneur l'appelle, il répond à l'appel sans savoir où il allait. Il va même vivre sous des tentes pendant des années, attendant que l'accomplissement de la promesse s'accomplisse. Il est le père de la foi. Mais il est aussi un exemple assez fondamental par rapport à la relation profonde, étroite qui existe entre la foi et les œuvres. Si nous lisons Genèse chapitre 22, je ne vais pas les lire, je vais juste les commenter. À partir du verset 1, jusqu'au verset 17, Abraham reçoit la visitation de Dieu. Dieu lui dit, Abraham, prends ton fils, ton unique fils. Je sais que tu l'aimes beaucoup. Cet enfant-là, tu vas au mont Moridia et là, tu vas l'offrir en sacrifice, en holocauste. Abraham n'hésite pas. Il ne va même pas aller demander à Sarah si Sarah peut donner son avis par rapport à ça. Parce que Sarah ne donnerait jamais un avis favorable. C'est lui à qui le Seigneur a parlé. Il s'élève. Il prend son âne et son serviteur. Il prend aussi le jeune homme. Il les prend. Tous, ils les prennent. Le troisième jour, ils ont marché le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour. Il lève les yeux et Dieu lui indique l'endroit où ils doivent aller. Alors, il dit au jeune qui était en train de l'accompagner, restez ici. Moi et le jeune homme, nous allons adorer le Seigneur sur la montagne. Abraham prend les biches pour l'holocauste et charge son fils de les transporter. Isaac dit à son père, mais papa, je vois tout, mais je ne vois pas, je vois le feu, je vois les bûches, mais je ne vois pas l'agneau que nous allons offrir en holocauste. Il répond, le Seigneur voit et il pourvoira. Jéhovah Jireh. Lorsqu'ils arrivent sur les lieux, Abraham y élève un autel, dispose tout et il commence à lier son fils unique pour le placer sur l'autel. Le jeune homme se laisse lier par son père. Abraham tend la main, il prend le couteau, il veut maintenant asséner son fils et l'ange de l'Éternel lui dit, arrête, arrête. L'ange lui dit ceci, n'étends pas la main sur le jeune homme, ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu, toi qui n'as pas épargné ton fils unique pour moi. Bon, c'est vrai qu'Abraham vit dans un environnement où il y avait cette pratique de livrer en sacrifice des enfants. Ça, c'était en vogue autour de, dans ce contexte-là. Mais Dieu le met à l'épreuve pour voir si par amour pour lui, il allait donner son fils. Dieu n'est pas le Dieu Moloch à qui on livrait des enfants, mais en fait, Dieu c'est Dieu saint, trois fois saint, mais qui met quand même à l'épreuve son serviteur Abraham. Abraham a passé l'examen. Il a réussi l'examen. Il a réussi parce que il a montré une chose assez importante. Il a reçu un enfant de Dieu, son unique fils, à 100 ans, mais il n'est pas attaché. Il n'est pas attaché à la bénédiction reçue. Il est attaché à Dieu qui bénit. Alléluia. Parce qu'il nous arrive d'être attaché aux bénédictions que nous avons reçues plutôt que d'être attaché à Dieu qui nous les a données. Abraham a passé l'examen, l'épreuve. D'ailleurs, il lui sera dit ceci. Et c'est l'ange de l'Éternel, donc l'Éternel qui parle à Abraham. Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela et n'as pas épargné ton fils unique, je m'engage à te bénir et à faire proliférer ta descendance autant que les étoiles du ciel et les sables au bord de la mer. Ta descendance occupera la porte de tes ennemis. C'est en elle que se béniront toutes les nations de la terre parce que tu as écouté ma voix. Parce qu'il a posé cet acte-là, exceptionnel, difficile à poser, Abraham a été richement béni. Nous comprenons effectivement que Abraham était un exemple de cela, toi et moi qui sommes invités à allier notre foi aux œuvres, aux actes. Ces actes, c'est comme une fleur, comme des fleurs qui embellissent notre foi. Ces actes ornent notre foi. Ces actes sont visibles aux yeux des hommes. Et c'est ça qui témoigne, effectivement, que nous avons la foi véritable, la foi qui sauve. Donc Jacques ne s'attaque pas aux œuvres de la foi. Il s'attaque aux œuvres de la loi, mais nous parlons plutôt ici, et Paul aussi en parle, des œuvres de la foi. C'est ça qu'il faut retenir. Il y a les œuvres de la loi auxquelles Paul s'attaque, qui sont produites dans la chair et pour glorifier la chair, mais il y a aussi des œuvres de la foi. Par exemple, quand quelqu'un, avant d'aller donner son offrande, il prend son porte-monnaie, il y a 100 dollars dedans. Et puis, il vient comme ça aller donner son offrande de 100 dollars en train de le montrer. Ça, c'est une œuvre de la chair. Parce qu'il faut que la chair soit honorée. Mais si ça se fait dans le secret, pour que le Seigneur soit glorifié, c'est donc une œuvre de la foi. Ce sont deux choses différentes. À quel niveau notre façon de vivre et de faire peut contribuer à glorifier le Seigneur, même fait dans le secret. Dans une église, il y avait une maman, une veuve, une veuve qui était presque ignorée de tous, mais avait choisi un ministère discret, ce qu'on appelle ministère caché. Elle a pris un engagement devant le Seigneur à prier pour les pasteurs, toute sa vie, de prier pour les pasteurs, pour que les pasteurs soient davantage forts, vigoureux, capables d'être une bénédiction pour l'Église. Elle a fait de ça son ministère chaque jour, sans désemparer, sans se fatiguer. Cette dame a fait ça pendant beaucoup d'années. Et le pasteur était fort. Son ministère a béni beaucoup de gens. Mais elle est morte. Quand elle est morte, on a constaté que le ministère du pasteur était en train de dégringoler, peu à peu, peu à peu. Les gens se sont posé la question, est-ce que le pasteur a péché? Parce que souvent quand le pasteur pêche, quand le pasteur devient affaibli, les gens pensent que Ashafanya Zambi. Est-ce que le pasteur a péché? Ils ont vérifié, ils se sont rendus compte que non. Certainement qu'il y a. Les gens étaient inquiets de constater que ça, ce n'était pas comme avant. Et un jour, un groupe était dans la prière. On a révélé la raison pour laquelle cela est arrivé, c'est que le soutien, l'appui du pasteur n'est plus là. Et c'est cette maman qui était décédée. Nous avons toujours tendance à croire que pour que nous puissions avoir un impact, être connus, qu'on nous acclame, on doit faire des choses que les gens voient de leurs propres yeux. Laissez la gloire à qui? Laissez la gloire au Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.